c'est parti. 3, 2, 1. Radio Libellule.
Les ondes positives.
Cette part jamais fixée, en nous sommeillante, d'où jaillira demain le multiple. René Char. Partons à la découverte de notre multiple, celui qui sommeille à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'une seule chose, éclore. Vous écoutez Radio Libellule, le trait d'union entre les générations, et je dois vous le dire, je préfère vous le dire en tout début d'émission afin que vous soyez prêts, je suis très très chaud aujourd'hui, je suis remonté à bloc, j'ai plein d'énergie à revendre, donc on va vraiment pas chômer, quoi. On va s'amuser, on va bouger, on va vous emmener un peu partout, soyez prêts, hein, vraiment, vous pouvez même faire des petits étirements avant, peut-être vous étirez un peu les épaules, allez hop, on s'étire un petit peu les épaules, on bouge un peu la tête, voilà, faut être prêt parce que là ça va être une émission remplie de dynamisme, mais également remplie d'amour, de bonheur, de joie, de discussion, de partage. C'est Radio Libellule, vous commencez un petit peu à comprendre ce qu'on aime faire et ce qu'on aime vivre avec vous. Surtout, vous n'oubliez pas de vous habiller en tenue Libellule. Alors c'est parti, je vous explique comment on fait. On met son sourire du bonheur, donc hop, on glisse le sourire du bonheur, on le garde, hein, ce sourire. C'est important de sourire, c'est essentiel même. On rajoute à ce petit sourire du bonheur, enfin petit et immense même, on rajoute nos lunettes de joie. C'est parti, clac, je mets mes lunettes de joie qui me font voir la vie avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Et on rajoute la petite casquette heureuse. On a notre sourire du bonheur, nos lunettes de la joie et notre casquette heureuse. L'émission peut commencer.
Ok, c'est parti. 3, 2, 1. Radio Libellule.
Les ondes positives.
Et oui, un Radio Libellule, c'est les ondes positives, le trait d'union entre les générations, le monde commun et le partage. Alors, au sommaire, on a nos petites habitudes maintenant, donc je ne vais pas redétailler un sommaire long, mais évidemment, il y aura du sport, il y aura du vélo, il y aura des savoir-faire. On est très contents parce que Bernadette nous rejoint sur cette émission. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas eu au téléphone. On aura de la poésie, bien entendu, de la musique. Comme d'habitude, des bonnes musiques qu'on connaît, mais aussi des musiques plus découvertes. Bref, ce sera une heure de bonheur. On a aussi une nouvelle chronique qui nous plaît particulièrement. Ça s'appelle « Deux minutes ensemble ». Vous verrez, c'est un jeu de société hyper amusant et qui est complètement en lien avec notre émission. Donc, c'est parfait. On y a joué avec Bernadette. Vous écouterez ça un petit peu plus tard dans l'émission. J'ai parlé de Bernadette, justement. J'étais très heureux de l'avoir au téléphone puisqu'on va encore on va parler de savoir-faire. On a appris à faire du pain. On a appris également à faire de la lessive. Enfin, on a appris plein de choses. Là, cette semaine, on va parler plutôt jardinage parce que Bernadette a cette chance assez incroyable. C'est qu'elle a la main verte, qu'elle est totalement passionnée de jardinage. Elle jardine très, très régulièrement, si ce n'est tout le temps. Et on va apprendre cette semaine comment repousser les pucerons verts parce que Bernadette, elle a réussi cet exploit de repousser des pucerons verts qui gênaient ses plantes. Comment a-t-elle fait? On l'écoute, c'est Bernadette.
Les petites recettes.
Radio Libellule, la radio qui bulbe. Blob, blob, blob.
Alors, la technique. D'abord, ce que je n'ai pas fait au printemps, mais qu'on devrait faire au printemps, c'est mettre des bandes collantes avec de la glu contre les arbres, contre les troncs, voilà, pour piéger toutes les petites bestioles qui grimpent le long des arbres. Seulement, cette bande, ça va très bien, la façon dont on la met, on la fixe avec du petit fil de fer, normalement, on doit piéger les bêtes. Mais la glu, elle sèche assez vite. Alors, il vaut mieux en plus acheter un pot de glu. C'est un peu cher quand même. Hein. J'en ai acheté 21,90€ dans une jardinerie. Et avec un vieux couteau à beurre ou une vieille spatule, vous savez, de comme on mettait le mastic autrefois autour des fenêtres, on remet bien comme il faut de la glu dessus. Parce que là, ce qui m'est arrivé, j'ai mis donc ce collant et tout de suite, ça a été une invasion de pucerons qui se sont collés dessus. Mais le lendemain, les pucerons qui remontaient du sol, Eh bien, ils sont passés par-dessus ceux qui étaient collés et puis ils ont continué à monter dans les arbres fruitiers. Voilà. Alors, j'ai acheté donc de la glu, j'ai remis de la glu, ce qui fait que j'ai piégé comme il faut les fourmis, parce que ce sont elles qui alimentent les pucerons. On dit qu'elles têtent les pucerons. Et j'ai piégé les fourmis, j'ai piégé aussi des mouches et tous les pucerons verts pratiquement. Mais il y avait quand même des petits pucerons qui étaient sous les feuilles. Alors, pour ça, je fais une décoction d'ail, c'est-à-dire que je prends une ou deux belles têtes d'ail. Moi, je mets ça dans 4 litres d'eau et je fais bouillir pendant un quart d'heure. Je laisse macérer 24 heures. Ensuite, j'écrase bien tout l'ail. Je les fais cuire avec la peau et tout. Hein. Et encore, je relaisse macérer pendant 2 heures. Ensuite, je prends un entonnoir dans lequel je mets un vieux morceau de collant, enfin quelque chose pas troué quand même, pour filtrer. Je mets ça dans mon pulvérisateur avec, suivant la quantité, si vous mettez par exemple 4 litres, moi je mets 2 bons bouchons de savon noir à l'huile de lin. Et après, je pulvérise bien comme il faut, mais il faut bien passer aussi sous les feuilles. Hein. Il faut se pencher un petit peu et puis envoyer le jet sous les feuilles de façon à ce que les pucerons qui sont logés là s'asphyxient avec ce qui colle, voilà. Et puis l'ail, parce qu'ils n'aiment pas du tout ça, pas du tout. Voilà. Et alors, on peut aussi traiter les rosiers hein, avec ça pour les pucerons, parce que les pucerons mères, ils sont aussi allés sur les rosiers. Donc, mes petites recettes.
C'était donc la bataille de Bernadette contre les pucerons verts. Elle a réussi à gagner. Bernadette ressort victorieuse de cette bataille. Bravo à vous. Et surtout, la technique, on retient. Hein, il suffit de d'ail. Et on fait cette petite préparation. Et voilà, tout simplement, il suffit de choses très simples. Et on peut, bien sûr, il y a de la patience. Hein, il faut du temps. Et je vous l'ai dit, en plus de ça, Bernadette a la main verte. Et ça aide beaucoup. On est tellement content de vous retrouver sur cette émission, Bernadette, parce que on aime vous écouter, qu'on va vous reprendre au téléphone un peu plus tard pour faire le jeu 2 minutes ensemble, ça je l'ai dit tout à l'heure. Mais en plus de ça, je vous ai préparé une petite surprise. On avait parlé de pain avec vous il y a pas mal de semaines. Vous nous aviez appris à faire du pain bio. J'ai retrouvé cette semaine une archive d'une fabricante de pain qui est pour le coup très atypique. Et cet extrait, il nous met en joie, il est assez excellent. Et vous allez voir, cette femme a un dynamisme assez incroyable. Et je pense que Bernadette, vous pourriez très rapidement devenir amie avec cette dame qui a beaucoup d'énergie, tout comme vous.
Je ne suis pas comme tous ces fainéants maintenant, que c'est des gens sous leurs bras qu'ils ont. Là, il faut travailler le pain. C'est pas en dormant qu'on fait du pain.
Vous faites combien de fournées par jour, madame Le Sage?
3, 10 fois 4.
Et la première, à quelle heure? La première, à quelle heure?
À 2h du matin que je me lève. Je ne suis pas comme tous ces fainéants maintenant que c'est des gens sous leurs bras qu'ils ont. Là, il faut travailler le pain. C'est pas en dormant qu'on fait du pain. Et de la bonne farine. Et pas de la pilule, ni pas de la poudre. Honnêtement.
Il faut le poignet.
Oui, c'est le poignet qu'il faut. Et puis il faut avoir du goût pour son pain. Il faut l'amour de son travail.
C'est votre magasin ici, madame Le Sage?
C'est ma cuisine.
C'est la même chose.
Oui, c'est exactement la même chose, mais j'ai pas de magasin.
Et puis c'est plus sympathique de...
Justement comme ça, je vois tous mes clients. Rentre, Louis. Je t'appelle, Louis.
Merci.
Bon, à demain.
À demain.
À demain, la petite Louise.
C'est une bonne cliente, Louise.
Oui, c'est
vrai.
Une bonne cliente, oui.
Madame Louise,
oui.
Venez un peu rester avec nous 2 minutes, là. Vous venez tous les jours chercher votre pain?
Tous les jours.
Et qu'est-ce que vous pensez du pain de madame Le Sage?
Il est bon, il est bien cuit au bois, c'est du bon pain.
Et j'ai des bons clients pour moi, des très bons clients. On arrive, Agnès, on boit un verre, allez, hein.
Ah, parce qu'on boit le coup en même temps ici.
Ben, alors, il pète.
On vient prendre son pain et en même temps...
Eh ben, et puis là, il apporte une bouteille, l'autre apporte un autre. Et moi, je paye
un coup de temps en temps.
Allez, alors.
Vous êtes fier de votre pain?
Parfaitement. C'est mon métier et j'espère bien de continuer encore 20 ans mon métier.
Ah oui, donc du coup, chez Madame Le Sage, on va chercher son pain et on boit le coup. Extrait extraordinaire, hein. Je savais que celui-là, il vous plairait. Il nous met vraiment de la joie, du dynamisme, parce que c'était assez incroyable. Je ne sais pas si je vous en ai parlé en intro, mais en tout cas, je vais le faire comme ça. Au pire, je me répète, mais au moins, je l'aurais dit. C'est l'émission 12 et je pense que c'est pour ça justement que je suis en pleine forme. C'est parce que 12, c'est mon numéro fétiche. Et pour l'occasion, j'ai mon maillot de basket de quand j'étais jeune. Je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai fait du basket très longtemps et je portais le numéro 12. C'est mon numéro fétiche. Et donc, même si vous ne le voyez pas, puisqu'on ne se voit pas, on se contente de se parler, sachez qu'actuellement, je suis en train d'animer derrière mon micro avec un maillot de basket, donc sans manches, hein, c'est des débardeurs. Jaune et bleu de mon club, de ma petite commune, et c'est donc le numéro 12. Et c'est avec plaisir que je le mets. Voilà, je suis content de. J'aurais jamais pensé un jour animer une émission radio avec mon maillot de basket, mais comme quoi on peut faire un peu ce qu'on veut et on peut un petit peu se lâcher. Pendant que je suis en train de parler, voilà, ça sonne déjà. J'ai vu du monde arriver au niveau de ma fenêtre et il me semble que c'est le facteur. Et oui, encore une fois, le facteur vient chaque semaine, hein, vous le savez. Je vais récupérer. Merci monsieur, je récupère ma lettre, oh, une belle lettre, pour Valentin, Radio Libellule, bisous les humains. Ah, bon, on sait très bien ce que c'est. S'il y a marqué bisous les humains, on sait que cette lettre, c'est encore une fois un animal qui essaye d'entrer en contact avec nous, enfin qui réussit, hein, puisque c'est un plaisir de les lire. Le but, comme d'habitude, retrouver quel animal nous parle. Salut les humains. Bon, je vous le dis direct, pour casser un peu le cliché sur moi, je vais faire vite. 2 mois dans une minuscule maison étroite, c'était pas le pire, enfin la patte. Mais alors une fois dehors, qu'est-ce qu'on se sent bien ? Vous aimez la plage les humains ? Le sable fin, le sable chaud, ben moi je suis né là. C'est donc très logiquement que j'ai eu envie d'entrer dans l'eau. C'était bien trop tentant. Avec tous mes frères et toutes mes sœurs, on s'est mis à nager, vite, très vite, vers le large. C'était un peu comme une gigantesque course de rapidité. Et au passage, les humains, on se retrouve quand vous voulez dans vos piscines olympiques pour faire la course. Hein. Bref, arrivé au large, c'était pas beau à voir. Tout le monde voulait notre peau. Il fallait nager vite, esquiver le bec des oiseaux chasseurs tout en gardant un œil sur le fond marin et ses prédateurs. Je nageais frénétiquement pour rester sain et sauf. J'avais très peur, mais j'avais pas dit mon dernier mot. À force de courage et d'acharnement, j'ai réussi à m'en sortir. Et après ces années perdues, comme vous dites les humains, ma vie d'ado pouvait commencer. Je nageais un peu partout, je me la coulais douce. Vers 21 ans, j'ai eu envie de vivre de nouvelles expériences, alors j'ai migré et j'ai rencontré la mère de mes enfants. Elle était si belle et si élégante. Bon, je vous l'avais dit, hein, je fais vite, au plaisir les humains, bisous. Et d'ailleurs, si un lièvre est dans le coin, je suis partant pour faire la course. Alors, est-ce que vous avez réussi à trouver ? Parce que moi, à la fin des lettres, quand je reçois les lettres de ces animaux, ils signent, il y a marqué « je suis un » ou « je suis une un ». Mais vous ne le savez pas et j'essaye de vous faire trouver. Alors, celui-là était quand même assez simple, surtout quand il nous dit à la fin « si un lièvre est dans le coin, on pourra faire la course ». Effectivement, ça faisait référence au lièvre et à la tortue. Effectivement, c'est une tortue qui nous a parlé. Alors donc, 2 mois dans une minuscule maison étroite, c'était en référence aux 2 mois dans l'œuf, puisque la tortue reste dans son œuf 2 mois avant d'éclore. Le sable fin, on le sait, hein, les tortues naissent sur le sable et puis vont ensuite marcher tout tranquillement vers l'océan. Elles vont partir à la nage vers le large. Et effectivement, c'est une période très très difficile où beaucoup perdent la vie, puisqu'au large, elles sont victimes de prédations, d'attaques. Et elles parlent un moment des années perdues, parce qu'en fait, on ne connaît pas très bien, les scientifiques ne connaissent pas parfaitement cette période de leur vie qu'on appelle un peu l'enfance. On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, si ce n'est que c'est difficile et qu'il y a beaucoup de prédations. C'est pour ça qu'on appelle ça les années perdues. Et puis ensuite, effectivement, entre 17 et 30 ans à peu près, la reproduction commence. Et ensuite la ponte, et puis etc. Et le cycle continue. C'est donc une tortue qui nous a parlé. Pour beaucoup de joie, d'amour et surtout de positif, on vous propose d'écouter « Ça ira mieux demain » d'Annie Cordy. Encore une fois, vous avez votre sourire du bonheur, vos lunettes de la joie et votre casquette heureuse. N'hésitez pas à danser. On écoute « Ça ira mieux demain » d'Annie Cordy et on se retrouve juste après.
Radio Libellule.
Les ondes positives.
ira mieux demain. Comme tout finira bien, il faut profiter du jour qui vient. Quand le jour paraît, j'ouvre les volets pour voir le soleil dans le grand ciel bleu. Tant mieux s'il est là, mais s'il n'y est pas, je me fais mon soleil même quand il pleut. J'ai le cœur léger, quelle que soit la saison, quand je chante.
Profiter du jour qui vient. Là, trouver une musique plus positive que celle-ci, ça va être compliqué parce que là, c'était bourré de bons messages, de joie, de bonheur. Ça me rappelle un petit peu la chronique qu'on avait écoutée il y a un mois, il me semble. C'était Les petits plaisirs de la vie par Paulette. C'était magnifique. Bah, c'est un peu ça, voilà. C'est profitons. Et justement, on a deux chroniqueurs dans notre. Chez Radio Libellule qui sont très très positifs et qui ont toujours des messages super intéressants, qui sont toujours dans la joie, dans le bonheur, qui sont toujours dans le partage avec le sourire. Et même quand on les écoute, on le voit, on voit qu'ils ont le sourire. Vous savez de qui je parle de Bernard et Dominique. Justement, on va les écouter parce qu'après une belle chanson comme ça, entendre leur voix, ça ne va que accentuer notre bonheur, parce que n'oubliez pas, les lunettes de la joie, le sourire du bonheur et la casquette heureuse est encore posée sur vous. Je vous vois, je vois que vous l'avez. Ne me mentez pas, je vois que vous l'avez tous mise et je vous en remercie. Alors, avec Bernard et Dominique, on va encore un petit peu voyager cette semaine. On va partir dans le Maine-et-Loire. Alors, attendez que je prenne une carte pour regarder où se situe le Maine-et-Loire. Non, je rigole, je charrie. En plus, c'est pas très loin de chez moi, donc je connais très très bien. On va là-bas parce que c'est les terres de naissance de notre ami Bernard. Et oui, Bernard est né dans le département du Maine-et-Loire et il a proposé de nous emmener. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous monter dans l'autocar pour le Maine-et-Loire. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici votre chauffeur de bus. Nous sommes partis pour la direction Maine-et-Loire avec notre guide Bernard ainsi que Dominique. Embarquez avec nous dans cette belle visite. Partons à la découverte des terres de naissance de Bernard, on écoute La Belle Époque.
La Belle Époque par Bernard et Dominique.
À l'époque, situé au milieu des coteaux, chargé de vignes, Saint-Aubin-de-Luigné est un village rural de la vallée du Layon.
À l'époque, cette vallée est bordée d'un relief de coteaux qui s'étend du sud de l'Anjou jusqu'à la pointe sud de la Bretagne.
À l'époque gallo-romaine, mon village, situé dans la vallée de la Loire, fut occupé par un certain Licinius.
À l'époque, son nom dériva en Luigné.
À l'époque, plusieurs siècles après, une chapelle fut dédiée à Saint-Aubin, évêque d'Angers, d'où le nom de Saint-Aubin de Luigné.
À l'époque, on appelait aussi le village la Perle du Layon.
À l'époque, la potion magique de ce petit village rural, c'est le vin.
À l'époque, dès votre arrivée au bourg, la devise du village vous accueille. Du Saint-Aubin dans sa cave, du soleil dans sa bouteille.
À l'époque, en 60, on compte environ 1000 âmes dans la commune, avec une base d'une dizaine de familles y vivant depuis plus de 3 générations.
À l'époque, nos vins, Coteau du Layon, Chaume et Quart de Chaume, Cabernet d'Anjou, sont renommés.
À l'époque, mes arrière-grands-parents deviennent métayers dès la fin du XVIIIe siècle.
À l'époque, le vignoble de la Grande Brosse restera dans la famille durant plus de 120 ans.
À l'époque, ses habitants très actifs, dits les bénévoles, mettent en avant le patrimoine du village et aussi son histoire en cultivant la douceur angevine.
La rue principale de Saint-Aubin, longue d'un petit kilomètre, est dénommée Canal de Monsieur.
À l'époque, elle comporte plusieurs vieilles demeures, dont certaines datent du XVIe siècle, et l'école primaire publique.
À l'époque, à son extrémité, la place de l'église, c'est le lieu de vie.
À l'époque, s'y trouve la deuxième école primaire privée, dont les enseignantes sont des religieuses.
À l'époque, les sœurs sont aussi les infirmières de la commune. Elles logent sur le domaine du château de la Guerche.
À l'époque, autour de l'église, se succèdent bars, cinémas, restaurants, l'alimentation familiale et le presbytère du XVIe siècle.
À l'époque, le dimanche, toute la campagne descend dans le bourg. Ça déborde de monde.
À l'époque, il y a deux messes, une à 6h30 et une à 10h30. Les Saint-Aubinois sont croyants et pratiquants.
À l'époque, on se déplace en vélo ou en mobylette. C'est pourquoi les garçons du bourg sont les enfants de cœur.
À l'époque, au restaurant de la Belle Clémence, on déguste le brochet de Loire au beurre blanc.
À l'époque, on peut y lire, en cuisine comme dans les arts, la simplicité est le signe de la perfection.
À l'époque, les sociétaires se rendent au cercle de boules de fort, la Concorde.
À l'époque, la boule de fort est le seul jeu au monde à se disputer en pantoufles.
À l'époque, ce cousin de la pétanque utilise des boules pas tout à fait rondes.
À l'époque, une boule pas tout à fait ronde qui se joue sur un terrain pas tout à fait plat. Drôle de jeu que celui-là.
À l'époque, en attendant de jouer, les sociétaires tapent la belote et refont le monde. Ce, autour d'une chopine ou d'une fillette de vin bouché.
Allez, rapprochez-vous. On va tous se réunir devant l'église sur la place du village dont on a appris plein de choses. Allez, rapprochez-vous. On se réunit tous autour de Bernard et Dominique. Bernard, Dominique, merci encore pour cette belle présentation de ce beau village. On a encore appris plein de choses, on vous remercie. Si jamais vous voulez prendre des photos, allez-y, prenez des photos. De toute façon, on va continuer à marcher un petit peu dans le village. Voilà, on prend des photos, on discute, on pose des questions à Bernard. On vous remercie, encore une fois, bien entendu. Il va bientôt être l'heure de retourner dans notre autocar pour repartir et aller vers de nouvelles aventures. Il nous attend... Enfin voilà, de nouvelles aventures nous attendent encore, on a plein de choses à faire, vous le savez, hein, une émission Libellule, c'est beaucoup de voyages, beaucoup, voilà, on s'évade, on part, on va un peu partout. Juste avant de partir, on peut aller aux toilettes ou alors aller acheter 2-3 petits trucs à manger, on va s'arrêter sur notre autoroute, voilà, hop, le car est prêt juste là-bas. Vous pouvez aller sur cette petite aire, c'est une aire Shell, et regardez là-bas, il y a Charles Trenet qui nous attend.
dans les chelles boutiques, dans les chelles boutiques. À quel avantage pour les chauffeurs sages, on y voit des trousses d'outillage, des piles électriques, tout pour le pique-nique. Pour l'auto chérie, mille et un produits, de quoi faire des folies. Il y a aussi, oh quelle merveille, des belles lunettes de soleil, des boîtes de jeux éducatifs, des biscuits apéritifs, dans les chelles boutiques, dans les chelles boutiques. Oui, c'est merveilleux, tout le monde y va, il n'y a rien de mieux que ces boutiques-là, elles sont sympathiques, vive les chelles boutiques.
Vive l'échelle boutique, c'est Charles Trenet qui nous le dit. Alors dans le bus, pour faire un petit peu passer le temps et pour qu'on discute au lieu de s'endormir chacun de son côté sur son siège, je vais sortir ma boîte magique que je viens d'avoir. Je suis super content de l'avoir dans mes mains. Cette boîte magique, c'est le jeu 2 minutes ensemble. 2 minutes ensemble, c'est quoi? C'est ça.
Et l'idée, c'est de faciliter le dialogue entre des gens qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas à partir de questions. Donc en fait, c'est un jeu qui permet de se connaître et de dialoguer et d'approfondir la connaissance des uns et des autres à travers les goûts, les souvenirs, le passé, enfin bref, tout ce qui fait notre vie. Je pense que ma fille, grâce à ce petit jeu, elle a certainement découvert des choses que j'ai vécues qu'elle ignorait. Parce que discuter de choses qui nous concernent personnellement ou culturelles comme ça, de but en blanc, c'est pas forcément évident. Mais là, étonné que ça passe par le jeu, et eh bien d'office, on se prend au jeu.
Et ce jeu de minutes ensemble est quand même assez magnifique et surtout il correspond complètement avec ce qu'on aime dans Radio Libellule, cette fusion des générations. Et ben on va jouer. Alors j'ouvre la boîte, c'est parti. J'ai dedans mes 52 cartes avec mes 4 thèmes. Voilà, vous entendez le petit aimant de la boîte. Voilà, c'est une petite boîte très très sympa, en plus très jolie avec des petites bulles. Et vous le savez, à Radio Libellule, la radio qui bulle, bah il y a des bulles en plus sur la boîte, c'est parfait. Et on va jouer avec qui? Avec ma meilleure amie, avec Bernadette. C'est parti, on joue au jeu 2 minutes ensemble avec Bernadette. Amusez-vous et répondez vous aussi de votre côté aux questions.
J'ai une grande faculté à rêver, donc à m'évader. Je me suis toujours évadée de ma condition initiale. Je me suis toujours évadée depuis que je suis gosse, tout le temps. Et c'est un bonheur de pouvoir s'évader.
Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un premier paquet. Par exemple, là, je prends le paquet « Je raconte ». Je vais les battre dans ma main et vous me direz « Stop ». Et j'arrêterai à la carte et puis on verra la carte sur laquelle on tombe, quelles questions on a.
D'accord.
Allez, c'est parti, je bats et vous me dites « Stop ».
Allez, stop.
Stop. Alors, Bernadette, « Je raconte l'activité la plus folle que j'ai faite ».
L'activité la plus folle que j'ai faite. Eh bien, écoutez, c'était pas tout à fait une activité, mais j'avais 12 ans. J'avais 12 ans et j'étais partie dans les Pyrénées avec mon parrain et puis sa famille. Et nous sommes allés à Gavarnie.
D'accord.
Alors, on montait au cirque de Gavarnie à pied. Il y avait aussi des ânes et ils s'arrêtaient à l'auberge. Alors, je n'y suis jamais revenue depuis. Et avec mon parrain, nous étions aussi fous l'un que l'autre. Après l'arrêt des ânes et où la plupart des gens restaient, nous sommes montés dans le cirque. Là, on voulait aller jusqu'au pied de la cascade. Et là, il y avait du vent. J'étais chaussée pas convenablement. J'avais pas des chaussures de montagne. Ouais. J'avais des petits souliers. Et j'ai glissé sur les cailloux qui sont bien érodés. Donc, ça fait des galets. J'ai glissé et je suis tombée et j'ai roulé. Il m'a arrêtée presque entre ses jambes. Juste avant de tomber dans le torrent.
Oh là là.
Ouf. Voilà.
Ah, là, c'est complètement l'activité la plus folle, même si effectivement, c'était pas voulu, c'était plutôt subi.
C'était l'activité la plus folle que j'ai faite.
Ah, c'est incroyable.
Parce que je m'étais quand même blessée au visage.
Ah oui.
Voilà, quand on m'a ramené là, jusqu'à cette petite auberge, où l'on m'a passé de l'alcool à 90 sur la figure.
Ça a dû brûler, là.
Et puis après, on s'est arrêté, quand on est redescendu, on s'est arrêté dans une pharmacie, ils m'ont donné des comprimés, ça m'a fait dormir toute la journée dans le bus, parce qu'on était partis en bus, en excursion. Il y avait après le pont d'Espagne, je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre, et le lac de Gobe. Alors là, je ne les ai pas vus. J'ai dormi tout le reste du temps dans le bus.
Le voyage est passé vite.
Jusqu'au soir.
Bon alors moi, mon activité, c'est un peu moins fou. Moi, je dirais que l'activité la plus folle que j'ai faite, c'est du saut à l'élastique. Ça, c'était cool. Ouais. J'avais fait le saut à l'élastique et les sensations sont quand même très fortes.
Oui. Mais moi, après, je ne suis pas téméraire. Je n'ai peur de rien.
Oui.
Je n'ai peur, je n'ai peur de rien, mais je ne suis pas téméraire.
D'accord.
Je ne prends pas des risques pour prendre des risques.
D'accord.
Voilà.
Bien sûr.
Voilà.
Oui.
Voilà.
D'accord. Et vous voyez comme le jeu fonctionne quand même à merveille, c'est que juste avec la phrase « l'activité la plus folle », on en arrive à discuter de plein de choses, c'est cool. C'est génial.
Oui. Bon,
alors, j'aime tellement le jeu qu'on va continuer, on va prendre un deuxième paquet, c'est le paquet « Je décris ». Donc pareil, Bernadette, je mélange les cartes et vous me dites « stop » quand vous le souhaitez.
Oui, stop.
Stop. Je décris l'animal sauvage que j'aimerais apprivoiser. Ah.
L'animal sauvage que j'aimerais apprivoiser.
Oui.
Alors là, je ne suis pas très très animaux, mais peut-être un paon.
Ah oui, super ça.
Un paon. Non pas parce que c'est Léon, mais parce que les couleurs.
Oui, c'est magnifique.
Voilà. Ah, ouais. Ou un ara, un perroquet
ara. Ouais. Ah, c'est beau ça.
C'est magnifique. C'est magnifique.
Ouais. Moi, je pensais
alors,
au singe plutôt.
Quand je sais que dans certains endroits il y en a, je vais voir quand même.
Oui.
Voilà. Mais apprivoiser. Oui. On marquait un perroquet, ça serait bien parce que il me répondrait comme ça.
Voilà. On pourrait taper la causette, discuter.
Non, les aras ne parlent pas. Ce sont les petits perroquets du Gabon là qui parlent, mais les aras ils parlent pas, je crois pas.
D'accord.
Voilà. Donc autrement, un animal sauvage. Autrement, je n'aime pas. Enfin, j'ai un chat chez moi, mais quand elle ne sera plus là, il n'y en aura pas d'autre. Hein.
D'accord.
Voilà. Okay. Les chiens, il y en a eu, mais je ne m'en occupais jamais parce que j'en ai peur.
Ah oui.
Voilà. J'en ai peur depuis l'enfance parce que quand on rentrait de l'école à bicyclette, il y avait des chiens qui nous coursaient. Et alors là, moi, c'était mes mollets qu'ils aimaient.
Ah oui.
Voilà. Donc, j'ai eu toujours très, très peur. Je suis souvent tombée de bicyclette à cause de ça. Et moi, de ma vie, je n'aurais jamais eu un chien.
Mais pour être très franc avec vous, moi, j'ai très peur des chiens aussi, parce que pareil, petit, je me suis fait courser par un chien. Et depuis, les petits chiens, ça va. Quand je les connais, ça va. Mais dans la rue, quand je vois un chien qui me regarde ou qui vient vers moi, je suis jamais très, très à l'aise. Hein.
Ah non, mais moi non plus. Hein.
Ouais,
moi non plus. Alors, je fais attention de ne pas montrer ma peur.
Ouais, moi aussi. C'est ce qui est difficile.
Mais je regarderai un chien, je vais le trouver joli, ou mignon, un petit chien, mais je n'irai pas le toucher.
Et on remercie Raphaël Defoucault et toute son équipe qui ont créé ce merveilleux jeu, qui nous l'ont transmis. Et voilà, c'est la nouvelle chronique 2 minutes ensemble que vous découvrirez chaque semaine. Et pour vous être très franc avec vous et très transparent, hein, là, on vient d'écouter la partie qu'on a faite avec Bernadette. Mais sachez que j'ai dû couper à la fin parce que finalement, on a parlé plus d'une heure. Parce que ce jeu, ils le disent sur la carte, hein, laisser la magie opérer et continuer la discussion selon vos envies. C'est exactement ça. C'est-à-dire que des fois, avec Bernadette, on oubliait presque qu'on était en train de jouer parce qu'on a lu la proposition de la carte et puis on a parlé, on s'est raconté nos vies, nos histoires, plein de choses. Donc voilà, si vous cherchez un moyen de redémarrer des discussions, de trouver des choses à dire, c'est le jeu 2 minutes ensemble. On retrouvera la semaine prochaine une nouvelle partie. On a parlé des choses les plus folles qu'on ait pu faire. Bernadette, c'était quand même pas mal, hein. C'était assez fou. Je savais pas, Bernadette, que vous étiez une cascadeuse. En tout cas, je pense qu'avec le vélo, Clément a dû vivre des choses assez folles et assez incroyables. En tout cas, cette semaine, il va nous parler du néo-rétro, un vélo qui fait le lien entre les générations. Clément se prépare, Clément nous sonne la clochette et c'est parti. On monte sur son vélo, on garde la casquette du bonheur, la casquette heureuse, on garde le sourire du bonheur, les lunettes de la joie, on monte tranquillement sur le vélo, la sonnette retentit. Clément, à toi de jouer. Fais-nous rêver.
À bicyclette avec Clément.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
Aujourd'hui, partons à la découverte d'un produit du 21e siècle, il s'agit du phénomène néo-rétro. Ce phénomène est le résultat d'une démarche bien ancrée depuis les années 2000. Vous vous rappelez du premier épisode où l'on découvrait le fixie ? Le néo-rétro en est la résultante. Cette volonté de transformer des vieux cadres de vélo en fixie moderne a permis d'ouvrir l'horizon à de nouveaux genres. Le néo-rétro, c'est simple. Prenez un cadre des années 70 ou des années 80 et vous adaptez des composants vélo des années 2020. Physiquement, ça donne un vélo en cadre tubulaire très épuré avec des composants modernes, avec des formes géométriques et tranchantes. Je vous assure que le résultat est incroyable.
Place oblige, la collection de Christian compte 4 vélos des années 30 à 50 avec un point commun, tous sont de marques qui n'existent plus.
Dans le temps, chaque marchand de vélo avait pratiquement sa marque, ils fabriquaient eux-mêmes les gars. Et ils avaient leur propre marque finalement. Donc, il y avait beaucoup de marques régionales, départementales, et ça faisait des centaines, voire plus de marques. Après, ça s'est industrialisé évidemment, donc il y a des grandes marques et plus de moyens qui petit à petit ont dû couler les petits finalement. Peut-être que pour les petits, c'était aussi plus facile d'acheter des vélos tout faits que de les fabriquer eux-mêmes.
Chaque vélo a ses particularités. Celui-ci a sa vignette fiscale de 1940. Une année sur deux, elles étaient en laiton ou en métal blanc.
Il faut savoir qu'il y avait des plaques fiscales jusque dans les années 50, je crois. Donc c'était une vignette, sorte de vignette. En plus, celui-ci donc, a la plaque de 1940, il a une bague anti-vol. Et comme il est de 1940, il a le porte-bagages qui est la marque Le Résistant. Ce qui m'a toujours... C'est ça qui m'a fait prendre ce vélo-là. Parce que je trouve que c'est un peu humoristique, malgré que ça ne devait pas être très marrant à l'époque. Enfin, un porte-bagages résistant en 1940. Peut-être pour ça qu'il a plus roulé après, le gars, j'en sais rien.
Le néo-rétro est une vraie pratique personnelle. Souvent bricolé dans les garages, vous retrouverez rarement ce vélo dans la vitrine d'un grand magasin. C'est un vrai réseau souterrain. Entre forums et communautés via les réseaux sociaux, vous n'entendrez parler de ce vélo que comme ça. Ce style concerne toutes les pratiques, telles que le VTT, le vélo de route, et j'en passe. C'est une vraie affaire de passionné, car en effet, la tâche s'avère parfois compliquée, on arrive parfois à l'exploit technique. Car les cotes de production d'origine sont parfois différentes de celles d'aujourd'hui. Mais quel plus grand bonheur de redonner vie à un vélo qui a peut-être été passé de génération en génération, et de lui permettre une seconde vie en lui rendant hommage avec des pièces de qualité. Dans tout ça, il y a une notion de développement durable dans cette passion. Fini les vélos destinés aux décharges, l'ère du recyclage est lancée. Je me souviens encore lorsque l'on m'a donné mon premier cadre old school, à l'ancienne. Aujourd'hui, sa peinture vert jaguar lui va ravir avec ses composants noirs. Je peux vous dire que ce n'est pas un vélo discret, et il fait souvent des jaloux.
3, 2, 1, allez, bon voyage, c'est parti.
Le Tour du Saumurois, version rétro, avec des circuits pour tous les mollets. Rien qu'au départ de ce parcours, ils sont près d'un millier à avoir remonté le temps sur leur bicyclette. Certains ont même fait un long voyage pour y participer.
C'est formidable, là. Vous voyez tous les vélos, les gens sont enfin. C'est bon enfant, c'est une ambiance qui fait du bien.
Et dans le peloton, tout le monde s'amuse à respecter la règle du vintage, du vélo jusqu'au moindre détail vestimentaire.
Je me suis basé sur un mariage de mes amis l'année dernière sur le mode vintage. Donc j'avais déjà les bretelles, la chemise blanche. Donc voilà, il fallait juste que je retrouve un short un peu dans les couleurs de la bretelle, le béret de mon grand-père.
C'est peut-être une des plus anciennes.
Avec toujours le même vélo ?
Ah, toujours le même vélo. Le vélo ne vieillit pas, moi je vieillis un peu, mais lui...
Ici, pas de compétition ni de podium, chacun pédale à son rythme en profitant du paysage.
Je pense que foncièrement, l'objectif est de créer une fusion intergénérationnelle, de prendre le meilleur des réalisations passées et le meilleur des productions du 21e siècle. Les vélos des années 80, c'est les couleurs flash, la gaieté, ça respire la Californie, berceau du vélo. Il faut voir un hommage dans ce nouveau phénomène. Les années 70, c'est l'explosion de la pratique du vélo dans une utilisation sportive. C'était la course à l'innovation, des formes de cadre originales, des freins fluorescents et d'autres. Les vélos néo-rétro sont avant tout des pièces de collection, un objet de décoration au milieu du salon.
messieurs du vélo. C'est notre
Allez, on revient parmi nous avec nos beaux vélos rétro. Et on va dire merci à Clément deux fois. Merci pour la magnifique chronique et le magnifique cours de vélo comme chaque semaine. Ça, on adore être avec toi et voilà, c'est toujours un plaisir. Mais merci surtout pour un terme que j'ai noté, le terme de fusion intergénérationnelle. Alors là, là t'as tapé très fort parce que je pense que c'est le terme exact. Bien plus qu'un lien intergénérationnel, bien sûr, le lien hyper important, mais je trouve que le mot fusion intergénérationnelle, voilà, il décrit vraiment tout, c'est une fusion. Et avec nous, tous ensemble, là, qui que vous soyez, on est tous, les libellules en fait, sous une fusion, en fait, il y a une fusion intergénérationnelle que j'adore, et ça c'est assez incroyable. Pour passer encore plus de bons moments tous ensemble, on va écouter encore de la musique parce qu'on adore ça. Si vous voulez continuer à faire du néo-rétro avec Clément, vous pouvez. Donc gardez hein, votre casque, bien sûr, par-dessus la casquette. Heureuse, attention. Et on va s'écouter une musique. Alors là, c'est très très spécial. Hein. Moi, ça m'a énormément étonné, mais je suis hyper heureux. On a Uppermost. Que vous connaissez peut-être, mais en tout cas, moi je connais et j'adore. Uppermost qui nous a envoyé un petit message. Je vous mets son petit message et juste après, on écoutera sa magnifique musique. Et c'est vraiment beaucoup d'émotions et c'est ça Libellule, hein, c'est des surprises. Et on le remercie énormément.
Salut, c'est Uppermost. Je pense que cette part jamais fixée dont parle René Char, elle est à la racine de mon inspiration musicale. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un morceau qui s'appelle Flood of Pain, un hymne à l'espoir au nom du lien humain. Bonne écoute et prenez soin de vous les libellules.
Et oui, c'était en rapport à la phrase d'introduction de cette émission, cette part jamais fixée en nous sommeillante, d'où jaillira demain le multiple de René Char, qui est, comme nous l'a dit Uppermost si gentiment, à la base de son inspiration. On va écouter son titre Through the Pain, qui veut dire à travers la douleur. C'est extrait de son album Given by Nature, sorti en 2018. Uppermost, merci à toi encore une fois, c'est un plaisir de t'avoir et une grande chance de pouvoir lancer cette magnifique musique. On écoute tous ensemble, on ferme les yeux, on rêve, on voyage et on passe un bon moment. C'était Through the Pain de Uppermost, qui veut dire à travers la douleur. Écoute, Uppermost, tu reviens quand tu veux, mon pote. Hein. Si tu veux reparticiper à l'émission, tu sais que c'est avec immense plaisir. Moi, ce que j'adore avec ce genre de musique, c'est que ça nous montre le pouvoir vraiment de la musique. Parce que pour moi, la musique a vraiment un réel pouvoir. Et c'est-à-dire que là, les musiciens qui arrivent à faire des belles musiques comme ça, il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de texte, parce que le texte, il est déjà dans la musique. La musique est un texte, la musique est une poésie. Et je trouve que c'est très beau d'entendre des sons comme ça. Ça change un petit peu. On ferme les yeux et puis chacun part vraiment où est-ce que... Voilà, chacun a son endroit, chacun part, chacun s'évade, chacun rêve, et la musique est lue différemment par chacun, en fait. Il n'y a pas de lecture officielle, de lecture obligatoire. Chacun lit la musique comme il le souhaite, et ça, je trouve ça magnifique, cette liberté de lire comme on le souhaite. Personnellement, quand j'écoute cette musique comme ça, voilà, je me sens entraîné. Je sens de la motivation, je vois beaucoup de couleurs, beaucoup de choses qui défilent. J'ai l'impression que je cours un peu, ou du moins je trottine, et autour de moi, les murs avancent, et il y a plein de gens autour de moi qui me tiennent la main. C'est un peu ce côté collectif. Je vais pas m'étendre sur la question, on va pas débattre sur la musique. Tout ça pour dire que j'ai adoré et que je remercie encore une fois Uppermost de nous avoir adressé cette musique et ce beau petit message. Après un beau moment où on a rêvé, où on s'est évadé, on va continuer. Parce qu'on adore ça. Vous savez, hein, l'imaginaire, c'est à la base de Radio Libellule. Et pour rêver et pour imaginer, eh ben, on a la poésie qui, voilà, même titre que la musique, qui nous permet beaucoup de choses. Et Émilie nous fait ça chaque semaine avec un plaisir assez incroyable et on adore l'écouter. Et cette semaine, on va écouter Au Souffle par Émilie, encore une fois. Une épopée plurielle avec le collectif des Herbes Flottantes. Donc cette fois, Émilie n'est pas seule. Elle est avec Lucie et Laura, donc à trois. Elle rencontre la déesse de la terre Pachamama et c'est une floraison d'un poème à trois. C'est parti pour le trio des Herbes Flottantes, c'est parti pour de la poésie. Allez-y, allongez-vous, du moins mettez-vous bien à l'aise. N'hésitez pas à rêver, surtout, faut pas hésiter, c'est faut rêver. Et on écoute tout de suite la magnifique poésie.
Radio Libellule, la radio qui bulle, blob, blob, blob.
Poésie en arabesque ouvre relation. Le vent porte le souffle du roseau. Roseau, sous regard du ciel, s'apaise dans brume. Brume au vent qui frôle les feuilles. Feuilles redessinent parois. En ombre, le corps respire. Respire les eaux du vent. Vent, cristallisant feuillage, agrippe nervure de l'âme. Cristallisant au vent qui fouette les mouettes. Mouette, embrumée, s'apaise. S'apaise le souffle qui danse à la rosée. À la rosée, le corps redessine ses parois. Redessine au vent qui fane le temps. Le temps cristallise les feuillages. Nervure agrippe âme. Âme des eaux du vent souffle dans les roseaux. Roseau sur ciel, brume en regard. Vent, frôle, fouette, mouette, fan, temps. Temps, corps, fouette, feuillage, fan. Fan, souffle, rosée, roseau, des eaux. Les eaux. Fan. Le vent porte le souffle du roseau.
En ombre, le corps redessine ses parois.
les eaux du vent.
Au vent qui fane le temps.
Cristallisant ses feuillages, les nervures agrippent l'âme. Le vent danse à la rosée.
Frôle.
Regard du ciel s'apaise, corps redessine parois, cristallisant feuillage, nervure agrippe âme. Vent souffle, vent danse, les eaux des roseaux à la rosée. Ciel s'apaise. Eau, souffle.
Trois magnifiques voix comme ça qui s'entremêlent, c'est magnifique, c'est ravissant, ça nous donne envie hein, de continuer, on aimerait en avoir encore un peu plus. En tout cas, ça nous permet de nous évader, de rêver. C'est de la douceur, c'est que du positif. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on aime sur cette émission. On va quand même rester dynamique. Hein. Bien sûr, vous pouvez continuer de rêver dans votre tête. Mais c'est même pas bien sûr, il faut continuer de rêver dans nos têtes, continuer de nous évader tous ensemble. Parce que voilà, cette émission est remplie d'amour et d'émotion. On va s'écouter un petit sketch de Raymond Devos pour se remettre un petit coup, voilà, un peu d'humour. Vous allez voir que celui-là est excellent. Juste avant, petite page de pub.
Je crois qu'il nous faudrait un poste à modulation de fréquence.
Et un électrophone.
Et un radiophono.
Et un transistor.
Un transistor pour moi. Et un téléviseur.
Et un magnétophone.
Un poste autoradio.
Qui dit radio, dit radio là. Et oui, effectivement, Radiola, que vous connaissez tous, j'en suis certain. Comme je vous l'ai promis, un petit sketch de Raymond Devos, parce que Raymond Devos joue avec les mots avec une aisance assez extraordinaire, hein, c'est assez incroyable. Et vous allez le voir, nous, on aime beaucoup se parler chaque semaine. Déjà, depuis 12 semaines, on se parle, on discute. Est-ce qu'on parle pour ne rien dire des fois? C'est la grande question qu'on se pose. Est-ce que ça arrive que l'on parle pour ne rien dire? En tout cas, si jamais vous pensez qu'on parle pour ne rien dire ou quelqu'un vous dit que vous parlez pour ne rien dire, vous verrez qu'avec ce sketch... Eh bien, cette expression, finalement, on peut la voir autrement. Et Raymond Devos le fait avec un humour incroyable. On écoute tout de suite.
Puisqu'on m'a demandé de faire un discours, je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. On en discute, je ne suis pas ennemi du colloque. Mais me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien, de rien. Et de rien, car rien, c'est pas rien, la preuve. Ben, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Alors, si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien, en le multipliant. Bon, une fois rien, c'est rien. Bon, deux fois rien, c'est pas beaucoup, d'accord. Mais trois fois rien, pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher! Bon, maintenant, si vous multipliez 3 fois rien par 3 fois rien, rien multiplié par rien égale rien, 3 multiplié par 3 égale 9, ça fait rien de 9. Bon, allez!
C'était le grand, l'excellent Raymond Devos. C'est bientôt la fin de l'émission et vous allez venir avec moi. Voilà, suivez-moi tous. Habillez-vous, disons, voilà, je ne vais pas vous forcer à vous habiller d'une façon précise, mais on va s'habiller plutôt classe. Voilà, on va se mettre sur son 31. On va plutôt se mettre smoking, belle robe. On va se mettre classe. Et on va aller au théâtre parce que l'émission va se terminer au théâtre. Elisa va nous faire l'évolution. Je ne vous dis pas encore de quoi, juste installez-vous, mettez-vous, asseyez-vous sur les beaux sièges de ce beau théâtre. Vous avez en face de vous le magnifique rideau rouge qui est encore fermé. Les lumières sont allumées. Asseyez-vous, la salle s'éteint. Voilà. La salle s'éteint, le rideau est encore fermé. Voilà, le rideau va bientôt s'ouvrir.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Cette semaine, nous allons parler de théâtre et d'amour. Cette semaine, nous allons parler de l'évolution de Roméo et Juliette, de 1940 à aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous allons faire un petit récap sur l'œuvre originale. Roméo et Juliette est une pièce de théâtre qui a été écrite par le dramaturge anglais William Shakespeare en 1597. Cette tragédie compte l'histoire de Roméo Montaigu et de Juliette Capulet, qui se vouent un amour sans fin malgré la haine que se portent leurs deux familles respectives. À la fin, pas de happy end, non, ils ne vécurent pas heureux et n'eurent pas beaucoup d'enfants, puisque les deux amants finissent par se suicider suite à quelques malentendus. Pas très gai tout ça. Roméo et Juliette, c'est donc l'histoire d'un amour impossible dominé par des jeux de pouvoir et par la haine. Mais voyons maintenant comment cette œuvre plus que célèbre a pu être réinterprétée au cours de l'histoire. Donc choisissez votre camp, Montaigu ou Capulet, et c'est parti. 1940. En 1947, le metteur en scène Peter Brook réinvente Roméo et Juliette. Alors que les interprétations précédentes amenaient un effet vintage et gardaient le cadre classique de l'œuvre, Brook, lui, préfère approcher la pièce au monde moderne sans s'importuner de la vraisemblance historique. Autre nouveauté, la réconciliation finale entre les deux familles ennemies est effacée de l'histoire et le rideau se ferme sur la mort de Juliette. 1950. Le dramaturge et réalisateur britannique Peter Ustinov repense la pièce en 1956 en lui donnant un sens comique. La pièce devient alors un film s'intitulant Romanov et Juliette, et l'intrigue se déroule durant la guerre froide. Petit résumé du film. Le président de Concordia, un petit pays inventé de A à Z par Ustinov et se situe en Europe centrale, découvre un jour l'amour que Juliette Molesworth et Igor Romanov se portent. Elle est la fille de l'ambassadeur américain, et il est le fils de l'ambassadeur russe. Cependant, le président n'en a absolument rien à faire, et décide d'organiser un mariage secret pour ces deux jeunes gens si opposés. 1960. Avec l'importance grandissante du cinéma, le public accepte de moins en moins que les rôles soient joués par des acteurs âgés et veut de la chair fraîche. Ça tombe bien, puisqu'en 1960, le réalisateur italien Franco Zeffirelli mise sur une distribution jeune pour sa mise en scène qui sera jouée à l'Old Vic, avec Judi Dench, qui est mondialement connue pour avoir joué M dans les James Bond, incarnant Juliette. Cette pièce sera ensuite adaptée au cinéma en 1968 et remportera deux Oscars. Le film a d'ailleurs suscité quelques polémiques, puisqu'une scène de nu était montrée, alors que les acteurs n'étaient pas majeurs. Mais comment parler des années 60 sans parler de West Side Story? Ce film, qui a été réalisé par Robert Wise et Jerome Robbins en 1961, réinvente totalement l'histoire. En effet, fini les Montaigu et les Capulet, maintenant place aux Jets originaires d'Europe et aux Sharks qui sont des immigrés portoricains, deux gangs rivaux. Et c'est au milieu de ces tensions que Tony, membre des Jets, et Maria, membre des Sharks, tombent amoureux. Ce film, qui est adapté d'une comédie musicale qui rencontrait un franc succès durant les années 50, dépeint la situation dans les bas-quartiers du New York de la même époque. Une nouvelle adaptation du film est prévue, et elle devrait sortir au cinéma cette année. 1970. Durant les années 70, Roméo et Juliette n'ont pas emballé les foules. La seule œuvre plus ou moins connue est un dessin animé canadien s'intitulant Roméo 0 et Julie 8, sorti en 1979. Ce dessin animé réalisé par Nelvana Limited parle de l'amour entre deux robots, alors que les humains désapprouvaient ces liaisons. Ce court-métrage fut la première adaptation de l'œuvre de Shakespeare en dessin animé. Une autre adaptation est celle d'un ballet dans lequel le rôle de Juliette est joué par la danseuse étoile russe Natalia Besmerdnova. 1980. Durant les années 80, on cherche la modernité. Ainsi, la Royal Shakespeare Company réécrit la pièce en 1986, en plaçant cette fois-ci l'intrigue dans une Vérone moderne. Les épées sont remplacées par des crans d'arrêt, et Roméo finit par se suicider par injection hypodermique au lieu d'utiliser du poison. Durant cette décennie, le groupe de rock Dire Straits revisite aussi l'œuvre de Shakespeare dans leur chanson Romeo and Juliet, extraite de l'album Making Movies, sorti en 1980. Cette fois aussi, l'impossibilité de leur amour n'est pas due à une rivalité entre familles, mais à la vénalité de Juliette, qui abandonne Roméo après avoir eu ce qu'elle voulait. Pas très romantique tout ça. 1990. En 1996, sort le film Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann et avec comme tête d'affiche Leonardo DiCaprio et Claire Danes. Cette fois-ci, l'histoire se situe dans un quartier défavorisé des États-Unis du XXe siècle. Cependant, les dialogues originaux furent conservés. Dans cette adaptation, violence, drogue et sexe sont au menu. En 1998 sort le film Shakespeare in Love de John Madden, dans lequel la vie du dramaturge au moment où il écrivait la pièce Roméo et Juliette est narrée. Ce film met en parallèle et tisse des liens entre l'histoire de Shakespeare et l'histoire de ses deux amants maudits. 2000. En 2001, la comédie musicale Roméo et Juliette de la haine à l'amour est créée par Gérard Prescurvic. Le casting inclut de grands noms comme Damien Sargue dans le rôle de Roméo et Cécilia Cara dans le rôle de Juliette. Dans cette nouvelle interprétation, le texte est plus moderne, l'amour des jeunes gens est connu de tous les personnages et de nouveaux personnages apparaissent comme celui de la mort. Aujourd'hui, quand on parle de cette comédie musicale, les éléments qui marquent le plus sont les nombreuses chansons aussi romantiques qu'insupportables présentes dans l'œuvre. Je sais pas vous, mais personnellement, quand j'entends cette chanson, j'ai pas trop envie d'aimer. En 2003 sort Underworld de Len Wiseman, dans lequel l'histoire d'amour impossible est cette fois adaptée dans un genre horrifique. Juliette, qui s'appelle ici Selene, est une vampire alors que Roméo, qui est maintenant Michael, est un humain mordu par un loup-garou. 2010. En 2011 sort le film d'animation Gnomeo et Juliette de Kelly Asbury. Cette fois-ci, les personnages sont des nains de jardin, les Capulet portent un bonnet rouge et les Montaigu un bonnet bleu. Les dialogues sont modernes, l'interprétation est comique et à la fin, pas de mort. La même année, une réinterprétation moins drôle de la pièce sort sous le nom de Private Romeo. L'intrigue de ce film réalisé par Alan Brown se déroule dans un lycée militaire et cette fois-ci, il n'est pas question de Roméo et Juliette, mais de deux Roméo. Leur amour est donc rendu impossible par la persécution qu'ils subissent de la part des autres élèves à cause de leur orientation sexuelle. Nous pouvons finalement dire que cette pièce mondialement célèbre n'a pas évolué, mais s'est réinventée tout au long de l'histoire. Chaque metteur en scène, réalisateur et artiste se l'est approprié et l'a fait évoluer à sa manière, et toutes ses créations ont fait de Roméo et Juliette une œuvre intemporelle. La pièce a souvent été le miroir de la société et a été vectrice d'opinion. Nous pouvons aussi dire que l'histoire d'un amour impossible a toujours passionné. Si ce ne sont pas des familles rivales ou des gangs rivaux qui divisent les deux amants, ce peut être le milieu social, la couleur de peau ou la personnalité des protagonistes. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à la semaine prochaine.
Deux mots, deux prénoms plutôt, Roméo, Juliette, et une histoire incroyable que nous a racontée Elisa. On a encore appris plein de choses, hein, encore une fois. Hein. Je pensais m'y connaître un petit peu sur Roméo et Juliette, et puis voilà, avec cette magnifique chronique évolution, on se rend compte que finalement, l'histoire est bien plus longue que prévu. Il y a beaucoup, beaucoup de choses autour de cette pièce Roméo et Juliette. Tu m'as bien fait rire le petit pic envoyé par Elisa. Eh, mais c'est ce qu'il y a de plus beau, qui nous dit j'ai pas trop envie d'aimer. Voilà, je pense que c'était une petite critique envers la chanson que Elisa ne doit pas beaucoup aimer. En tout cas, Elisa, tu restes avec nous. Restez dans le théâtre. Elisa, tu peux rester sur scène parce que tu as pour nous une énigme.
Qu'est-ce qu'est l'odonatologie ?
Tu peux répéter la question ?
Qu'est-ce qu'est l'odonatologie ? Ah ah ! Là, c'est quelque chose de très précis et là, pour le coup, on ne peut pas l'inventer. Là, il faut le savoir. Donc, voilà, je vous laisse réfléchir. Quoi qu'il en soit, on a passé encore une fois une émission tous ensemble. Voilà, on a discuté, on a échangé, il y avait de l'amour. N'oubliez pas que vous avez encore sur vous la casquette heureuse, les lunettes de la joie et le sourire du bonheur. Je compte sur vous pour garder ça jusqu'à la semaine prochaine et jusqu'aux semaines qui vont suivre. On garde ça tous ensemble. Comptez sur moi en tout cas pour garder ce petit costume que j'aime beaucoup, qui est un costume naturel, authentique, que j'adore. N'oubliez pas que sur notre site internet, on peut retrouver de la sophrologie, des séances de sophrologie qui vous permettront de vous reposer, de vous évader un petit peu. Il y a des récits, il y a des musiques, il y a des poèmes. On remercie encore une fois l'association VS Art pour nos aînés, les sophrologues qui travaillent avec nous. Voilà, on remercie aussi les documentaires sonores. Vous avez Le Courage des femmes en temps de guerre qui est encore disponible et on a cru comprendre que ça vous plaisait bien. Donc voilà, n'hésitez pas à l'écouter et à le partager. Et on a aussi l'atelier des mots. L'atelier des mots avec Nathalie vous permet de vous lancer un petit peu dans l'écriture, dans la création, si vous avez un besoin d'une petite aide au départ pour écrire. N'oubliez pas que cet atelier est disponible. Petite annonce par Nathalie.
Je suis devant la porte de l'atelier des mots et je fais de grands gestes pour vous faire entrer. N'ayez pas d'inquiétude. Ici, les mots sont doux et bienveillants. Ici, les mots sont de toutes les couleurs et de tous les âges. Ils vous accueillent à bras ouverts et vous encouragent. Ils vous disent qu'à plusieurs, c'est toujours beaucoup plus simple. Ils vous disent qu'ensemble, on fait de belles choses. Ils vous disent que c'est ici et maintenant. Venez, il ne manque plus que vous.
Embarquez dans la capsule des rêves aux côtés de Nathalie. Bienvenue dans l'atelier des mots.
bienvenue dans l'atelier des mots. Alors, est-ce que vous restez devant la porte ou est-ce que vous rentrez avec nous? En tout cas, sachez que la porte, elle est grande ouverte. Radio Libellule, c'est le monde commun, c'est l'amour, le partage, c'est la discussion, c'est l'échange, c'est plein d'émotions, plein de surprises. Voilà, ça fait 12 émissions qu'on est tous ensemble et ben, on se doit de vous le dire, hein, c'est un pur bonheur, c'est presque magique. Voilà, la magie opère. La magie opère comme dans le jeu 2 minutes ensemble. Hein. N'oubliez pas ce magnifique jeu qui nous permet de créer du lien encore une fois. Et on va reprendre le magnifique terme de Clément. Radio Libellule, c'est la fusion intergénérationnelle. Et on va se quitter avec Charlotte et Mathieu de l'initiative Pour nos aînés qui nous chantent une chanson d'Edith Piaf. Mathieu et Charlotte, c'est à vous. À la semaine prochaine. Gardez le sourire. Prenez soin de vous. On vous aime. Radio Libellule, les ondes positives.
Radio Libellule, la radio qui bulle, blob, blob, blob.
Bonjour, moi c'est Mathieu. Je suis en CM2 et j'ai 11 ans.
Bonjour, moi c'est Charlotte, je suis en terminale et j'ai 17 ans. Et nous allons vous interpréter l'hymne à l'amour d'Edith Piaf et on espère que vous allez aimer.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes. Je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins. Tant que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes.
Je dirai jusqu'au bout du monde, je me ferai ta blonde si tu me le demandais.
J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais.
Je réunirai ma patrie,
je renierai mes amis,
si tu me le demandais.
On peut bien rire de moi,
je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais.
Tout en bas de la rue,
si un jour la vie t'arrache à moi, que tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité. Dieu réunit ceux